Heureux de vous retrouver. Hop. Allez, bah, du coup, la dernière fois, on était à la fin de Bereshit, là, on est, ça y est, au début de Shemot. Dans les parachutes de Shemot, on rentre très rapidement dans le feu de l'action avec l'histoire de l'esclavage, mais qui finalement ne prend qu'un seul chapitre dans la Torah. C'est tout, on ne sait pas plus. Il n'y a pas de détails sur l'esclavage, il n'y a rien en fait, pratiquement rien. On sait qu'on a souffert, mais on n'a aucun détail. Qu'est-ce que le pharaon faisait? Comment est-ce qu'on travaillait? Comment est-ce qu'on souffrait? Dans les détails, il n'y a rien dans la Torah, ça va très très vite. Il y a le premier chapitre, et puis après, tout de suite, on a la naissance de Moshe Rabbeinu, l'histoire avec Moshe, qui part à Midian, qui est machin, etc. Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose. Ce sont les divrei chachamim, ce sont les paroles de nos chachamim, les midrashim, les interprétations qui nous font comprendre et toucher un peu du doigt à quel point la souffrance était forte. Mais dans le texte de la Torah, hop, on passe très très vite. Très très vite là-dessus, en réalité. On n'a vraiment aucun détail. Hein, Khatak, donc dans les divrei chachamim, d'accord, tout ce qui est la Agada, tout ce qui va détailler, etc. Mais sinon, dans le texte de la Torah, on passe très vite sur ça et en fait, on met le doigt directement sur la naissance de Moshe, sur le libérateur qui se met en place, sur la libération, sur les 10 plaies, sur l'ouverture de la mer, très très vite. Mais effectivement, voilà, on plonge finalement tout de suite dans le cœur, dans le vif du sujet, c'est-à-dire, il y a un Dieu qui vient réaliser sa promesse, qui est de sauver son peuple. Et, quoi qu'il arrive, quels que soient les moyens, d'aller chercher un peuple parmi un peuple, on nous dit comme un fœtus dans le ventre de sa mère, d'accord, pour montrer que les Hébreux, la comparaison c'est les Chachamim, elle est extrêmement importante, parce que c'est pour nous montrer, quand on nous dit, c'est comme si Dieu a été chercher un fœtus dans le ventre de sa mère, d'accord, l'idée elle est très importante, c'est de nous faire comprendre que les Hébreux en Égypte, c'était des Égyptiens. C'est ça que ça veut dire. Ils étaient comme des Égyptiens. Il n'y avait plus grand-chose qui tenait au niveau de notre identité juive. Il n'y avait pas, et on l'a déjà rappelé plusieurs fois, ni de Brit Mila, ni rien, à part les quelques petites choses qu'ils avaient préservées. D'accord ? Il n'y avait rien. Il n'y avait plus rien. Donc c'est comme un fœtus dans le ventre de sa mère. C'est ça qu'on veut nous dire. D'accord ? Une nation au sein d'une nation, un fœtus dans le ventre de sa mère, c'est que, en fait, Dieu est intervenu pour sauver son peuple uniquement parce qu'il s'était engagé à le faire. Pas parce qu'on avait des mérites particuliers, si ce n'est les quatre petits mérites dont on parle dans les commentateurs, d'accord ? Le nom, les vêtements, la langue et le fait d'avoir préservé leur mœurs. Mais c'est très léger, ça, l'essentiel. Chazak, les Lévim, c'est tout. D'accord, les Lévim, ils l'ont mérité. Mais honnêtement, c'est une tribu sur 12. D'accord, donc ça va, ça pèse pas grand-chose. Si ce n'est donc Akash Bakou qui me dit, ok, c'est bon, je l'ai promis. Je me dois de le réaliser. Vous allez faire quand même des petites choses dont on parlera plutôt dans la paracha de la semaine prochaine, d'accord, pour montrer que vous êtes quand même descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais sinon, je viens parce que je l'ai promis, d'accord, je viens vous libérer parce que je l'ai promis. Et donc, on a commencé ce Shabbat, l'histoire des 10 plaies, d'accord, qui vont s'abattre sur l'Égypte, etc. Et là, du coup, et je pense qu'on a tous eu le même réflexe, dès qu'on commence à lire la paracha de cette semaine, tu l'as dit toi-même, hop, on est dans la Haggadah, on se replonge dans le soirée du Seder, et les petits commentaires qu'on connaît, et les petites histoires qu'on a racontées à nos enfants, sur la façon dont on est sorti d'Égypte, sur les différentes plaies qui sont abattues sur l'Égypte, etc., etc. On se dit, c'est passionnant, mais il y a a priori pas grand-chose qui vient chambouler nos connaissances sur le sujet, quoi, d'accord ? Ça fait tellement longtemps qu'on connaît ces histoires, qu'on les aborde avec une sorte de supériorité, d'accord, en se disant c'est bon, je maîtrise, c'est bon, je connais, d'accord, oh, la prochaine c'est les grenouilles, tag, c'est Fardia, ensuite les kinis, ensuite la robe, etc. Ça va, quoi, d'accord, on maîtrise le sujet. Et justement, j'ai voulu ce Shabbat lire un texte de Rabbeinu Bechaye qui vient nous dire et qui vient nous sensibiliser sur ça en nous disant à quel point nous tous on s'enferme dans nos acquis de connaissances, notamment dans des sujets de Torah qui sont extrêmement célèbres et partagés, comme l'histoire de la sortie d'Égypte, en se disant « ça va, on connaît ». On connaît, et donc du coup, on ne se laisse plus l'opportunité d'être surpris par certains commentaires traditionnels, bien évidemment, qui viennent nous donner une nouvelle lecture sur l'histoire. Et on se dit, bon, ça va, qu'est-ce que je peux connaître de plus sur les 10 plaies, d'accord, c'est bon, je connais toutes les opinions, les machins, combien de temps ça a duré, est-ce qu'il les a prévenus, pas prévenus, est-ce que c'est venu tout de suite sur la tête du pharaon, est-ce que truc, les trois groupes de plaies, ça va, on se dit, c'est bon, on maîtrise le sujet. Regardez ce que dit Rabbeinu Bechaye, vraiment, je voulais lire quelques lignes avec vous, c'est Chovot HaLevavot. Chovot HaLevavot, c'est un classique de chez les classiques, et il nous dit comme ça, retenez juste quelques idées. Ne te contente pas, parce que ça serait la mort de l'étude, ne te contente pas de t'enfermer sur les connaissances que tu as pu acquérir au début de ton étude, dans ta jeunesse, les fameux enseignements, midrashim qu'on t'a raconté quand t'étais enfant, quand t'étais à l'école, quand t'étais au Talmud Torah, quand t'étais à la table de ton seder avec tes parents, etc. Il nous dit, ne te contente pas de ça. Ne t'enferme pas, n'enferme pas ta volonté de connaître plus en te disant, bah ça va, on maîtrise. Shelo bederech hakira harishona. Sache que ton étude cette année ne doit pas ressembler à l'étude que tu as eue l'année dernière, et il y a 5 ans, et il y a 10 ans, sur des passages aussi célèbres que celui de l'histoire de la sortie d'Égypte. Et que tu dois être capable cette année, comme tous les autres années, de trouver des chidushim, d'aller à la recherche de chidushim chez nos chachamim, et il y en a largement plus que ce que tu peux penser, qui peuvent te surprendre, qui peuvent t'intéresser et qui peuvent t'ouvrir de nouvelles voies de réflexion. Non pas qu'il faille évacuer ce qu'on a déjà appris, mais qu'en réalité, il faut qu'on soit capable de superposer différentes couches de connaissances et de lecture du même texte que l'on connaît depuis tant et tant d'années, qui est l'histoire de la sortie d'Égypte et des 10 plaies. Eh bien, le Chovot HaLevavot nous dit que ça soit sur ça ou sur d'autres sujets classiques de la Torah, ne te contente pas et ne t'enferme pas dans tes connaissances acquises au début de ton étude. Parce que sache que tes professeurs de l'époque se sont nécessairement adaptés à ton niveau de l'époque, à l'âge que tu avais à l'époque où tu étais entre leurs mains. Et que toi, tu dis, ah non, mais moi, je me rappelle quand j'étais au Talmud Torah ou quand j'étais à l'école juive, j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans. D'accord, je me rappelle des enseignements de mes maîtres. Et donc, du coup, ça me suffit. Il nous dit, mais attends, mais tu crois quoi? Tes professeurs de l'époque ne t'ont pas tout livré. Pourquoi ils ne t'ont pas tout livré? Parce qu'ils ont livré ce qui correspondait à ton âge, à ton niveau, à tes capacités intellectuelles, etc. Et donc, toi, tu as aujourd'hui 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu restes avec une lecture de ton enfance de 12 ans en disant « Ah non, mais je me rappelle, c'est quoi l'histoire des 10 plaies ?» On dit « Non, mais tu n'as pas le droit de t'enfermer là-dedans. » Parce que premièrement, tes facultés ont évolué et les facultés de tes professeurs de l'époque, bien évidemment qu'elles étaient adaptées à ton âge et à ton niveau de connaissance. Et c'est pour ça, et moi c'est très, très, très flagrant, c'est que des fois, quand tu donnes un enseignement, d'accord, à des gens qui sont relativement jeunes, d'accord, 15, 17, 18 ans, et que tu leur donnes un petit ridouche comme ça, sur quelque chose qu'ils connaissent, sur un sujet qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà étudié à l'école, au Talmud Torah, la première réaction souvent, c'est de dire « Attends, je comprends pas, c'est pas comme ça qu'on l'a appris. » D'accord, ça, on l'a jamais entendu. Mais justement, c'est pour leur faire toucher du doigt qu'une étude de Torah, elle doit s'adapter à l'âge que tu as, à ton niveau et au nombre d'années qui passent. D'accord ? Et que ne remets pas en cause ce que tes professeurs t'ont appris avant en disant « Ah, mais alors évidemment, ça veut dire qu'ils sont trompés ou que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'ils m'ont regardé, comparé à ce que j'apprends aujourd'hui. Alors effectivement, alors quoi, c'était nul alors il y a quand j'avais 10 ans ?» En fait, non. Ils ne t'ont pas menti, ils ne t'ont pas trompé. Ils t'ont donné une Torah qui est dans la première strate. Mais la grandeur de la Torah, dit Rabbeinu Bechaye, c'est que Baruch HaShem, justement, il y a des tonnes de niveaux et qu'ils sont tous bons, mais que tu ne dois surtout pas t'enfermer dans une lecture du passé, de ta jeunesse, du début de ton parcours d'études, quel que soit l'âge à laquelle on commence, hein, ça ne change rien, d'accord ? C'est ton début de parcours d'études, d'accord ? Et donc, ne te contente pas de cela. Et il rajoute Kize mi pitu ya yetserara. Sheyirshal otra me ayan umechakor ala mita ta inyanim. Et sache qu'en réalité, si on creuse un petit peu, ce qui t'empêche d'aller chercher ailleurs et d'aller chercher plus profond et de découvrir d'autres et d'autres commentaires, en te contentant comme ça de dire « Ah non, mais ça va, je connais. Le CDR, ça y est, on l'a fait 50 fois. Hein. » D'accord ? Il nous dit que finalement, si tu creuses, c'est ton Yetzer Hara qui est le moteur de ce raisonnement-là. Pourquoi ? Parce que ton Yetzer Hara, il te dit « Ah, ça va. T'as pas besoin d'aller à un cours sur les diplés. T'as pas besoin d'étudier particulièrement la semaine des parachutes où il y a les diplés. D'accord ? C'est tellement basique et tellement traditionnel que t'as pas besoin d'aller chercher autre chose. T'as pas à aller chercher autre chose parce qu'il n'y a rien d'autre que ce que tu connais déjà. » Et donc, il nous dit, surtout, soyons capables de garder comme ça une appétit forte pour aller chercher de nouveaux commentaires, d'accord, et de voir exactement qu'est-ce qu'on peut découvrir de plus grand dans les mitzvot de la Torah ou dans les histoires, même les histoires sur la sortie d'Égypte, et qu'est-ce que ça peut nous révéler. Et c'est marrant parce que ça avait très bien réagi, pour pointer du doigt un de ces chidushim de nos chachamim, c'est par exemple, mais c'était juste pour donner un truc aux fidèles, c'est de leur dire, je vous pose une question très simple. Les diplés d'Égypte, on connaît tous, ouais, tout, on connaît tous. Les diplés d'Égypte, est-ce que les Hébreux, ils ont été atteints, touchés par les diplés qui sont abattus sur l'Égypte ?
Certains.
Razak, d'après Maïmonide, qu'on a toujours entendu depuis qu'on est plus petit, le Rambam, il nous dit quoi ? Il nous dit, non. On n'a pas été touché. On n'a jamais été touché, sauf pour la mort de ceux qui ne voulaient pas sortir. Mais ce n'est pas la plaie qui nous touche. Ce n'est pas les ténèbres qui nous ont tués. C'est que pendant les ténèbres, Hachem a fait le ménage. Mais ce n'est pas la plaie qui nous a tués. Le Rambam nous dit, on n'a pas été touché par les plaies. C'est d'ailleurs le principe. Le principe, c'est quoi ? C'est que Dieu s'est révélé pour nous protéger, non ? Pour nous sauver. Donc, s'il vient pour nous sauver, nécessairement, il protège le peuple d'Israël et il met sa main sur les Égyptiens. Bien.
Pourquoi est-ce qu'il a demandé les signes ?
Quels signes ?
Sur la porte, le soir de...
Chazak !
C'est-à-dire que sans ces signes, on aurait été touchés ?
Oui. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas mis ce signe-là, c'est qu'ils voulaient rester Égyptiens, en réalité, c'est qu'ils ne voulaient pas sortir. Mais comme le ménage avait déjà été fait avant, avec la mort, le rocher, d'accord. Donc finalement, ceux qui restaient, c'est ceux qui étaient impliqués dans l'histoire, d'accord. Mais je répète, ce n'est pas la plaie qui nous a frappés. C'est pendant la plaie qu'on a été frappés. Mais c'est pas la plaie elle-même. Donc effectivement, honnêtement, 95% des gens, des fidèles, d'accord, disent, non, on n'a pas été touché par aucune des plaies. On n'a pas été touché, pas par les plaies. Et pourtant, Chidouche, le Ibn Ezra, traditionnel parmi les traditionnels dans nos commentateurs, vient nous dire, c'est faux, je ne suis pas d'accord. Le Ibn Ezra, il est dans la même génération que le Maïmonide, il est juste avant. D'accord, Maïmonide, il est né, ils ont une petite période de vie en parallèle, d'accord. Maïmonide, il est juste un peu après le Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, il dit quoi ? Il dit, c'est pas vrai. Il y a un certain nombre de plaies où les Hébreux ont été touchés au même titre que les Égyptiens. Et il donne la liste.
Les six premiers, non ?
Il donne la liste. Alors, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, regarde, moi, je suis ce qu'on appelle un pashtan. Vous savez que chez les commentateurs, il y a deux grandes catégories de commentateurs. Il y a les pashtanim, qui vient du mot pshat, ceux qui lisent le texte dans son sens littéral, en tout cas le plus possible. Et puis, il y a tous ceux qui sont plutôt dans les midrashim, les agadot, les akabal, etc. C'est une autre lecture de la Torah. Le Ibn Ezra, il fait partie des pashtanim. Et il se définit comme ça. Et il a un grand principe, il nous dit, écoute, moi, pour moi, c'est très simple. C'est que lorsqu'il y a un miracle qui est réalisé par Dieu sur terre, à l'égard de son peuple, le miracle doit nécessairement être écrit explicitement dans la Torah. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où Dieu fait un miracle, Il faut qu'on puisse en être conscient pour en faire une louange. Et donc, à chaque fois que Dieu réalise un miracle pour son peuple, il doit l'écrire dans le texte de la Torah. Si ce n'est pas écrit, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Et donc, il reprend tout le texte des 10 plaies. Et vous allez voir, ça va vous ouvrir, tac, une nouvelle lecture. Il va dire, écoute, pour moi, le principe est clair. Tant qu'il n'y a pas écrit à propos de telle ou telle plaie, qu'il y a eu un distinguo, qu'il y a eu une différence entre les Hébreux et les Égyptiens, si ce n'est pas écrit, c'est qu'il n'y en a pas eu. Et il y va. Il reprend toute la liste et il va chercher les fameux mots qu'on connaît qui nous disent qu'il y a eu une différence, notamment « Veifleti », j'ai créé un distinguo, une différence entre mon peuple et les Égyptiens, que dans le pays de Goshen, il n'y a pas eu telle ou telle plaie parce que c'était mon peuple, etc., etc. Ou que, pour les ténèbres, que pour les enfants d'Israël, il y avait de la lumière. Ah, ok, distinguo, miracle, spécifique. Mais là où ce n'est pas écrit, c'est qu'il n'y a pas eu. Par exemple, il dit explicitement, Dam Tsefardi Akinim, il dit déjà sur ces trois-là, il n'y a eu aucune différence. On a été touchés comme les Égyptiens. Pareil, kiff, kiff. Ah, waouh! Alors là, c'est un scoop.
On pensait que
mais
Israël, ils avaient le don.
Merci! Parce que nous, on connaît tous le Midrash depuis qu'on est tout petit, et c'est oui un Midrash, qui nous dit, tu rigoles ou quoi? L'histoire du sang, c'était un truc incroyable. Les Égyptiens, ils avaient du sang, mais pas les Hébreux. Les Hébreux, ils avaient de l'eau. À tel point, nous dit le Midrash, que en fait, les Béné Israël se sont enrichis. Ils se sont enrichis, ils ont vendu l'eau. Et que si ils avaient une cruche et qu'il y avait un Égyptien qui buvait là avec une paille, et que dans la même cruche, il y avait un Hébreu qui buvait avec une autre paille, d'accord? On dit quoi dans le Midrash? On dit que celui qui est Égyptien, il boit du sang, et que l'Hébreu, il boit de l'eau. C'est un Midrash. Le Ibn Ezra, il le cite. Et il dit, je ne suis pas d'accord. Je ne m'inscris pas dans ce Midrash. C'est quand même incroyable, c'est une force incroyable. D'accord, c'est une force incroyable. C'est l'Ibn Ezra. Quand on est l'Ibn Ezra, on peut se positionner comme ça. Mais nous, du coup, on apprend des nouvelles lectures. Et donc, il nous dit, en réalité, les plaies qui ne sont pas mortelles, les Hébreux n'ont pas eu de protection particulière. Et ils ont été touchés comme les autres. Et il fait tous les jeux de mots, hein, d'accord, il va au bout de sa lecture. Hein. Il va te reprendre tous les paragraphes en question, d'accord, et il va te dire que quand il est écrit dans la Torah, par exemple, que les Égyptiens ont creusé tout autour du Nil pour avoir de l'eau, ouais, c'est un passouk de la Torah, de la paracha qu'on a lu cette semaine, il nous dit, bah, quand il y a écrit les Égyptiens, il faut comprendre, les Égyptiens, tous ceux qui vivaient en Égypte, dans le sens le plus large du terme. Comme nous, aujourd'hui, on est des Juifs en France, d'accord, on dit, bah, les Français, ok, bah, on est les Français, on fait partie du peuple. Le Ibn Ezra nous dit, quand il est écrit dans la Torah, les Égyptiens ont creusé tout autour du Nil pour avoir de l'eau, il nous dit, bah, les Égyptiens, c'est les Hébreux aussi. Hein. On n'avait pas d'eau, on avait du sang, pareil. Et il a fallu creuser pour aller chercher des sources d'eau en parallèle du Nil. Et c'est là qu'on a eu de l'eau. Pareil pour Kinim, pareil pour Tsefardéa. Il nous dit, la première différence, c'est les bêtes sauvages. Ah ouais, pourquoi les bêtes sauvages? Bah parce qu'il dit, parce que c'est écrit. Et pourquoi Dieu a fait une différence? Parce que c'est mortel. Toutes les plaies qui sont mortelles, qui sont dures à supporter, Akash Baruchou nous a protégés. Les autres, il a laissé. Ça fait partie des dégâts collatéraux pour sortir, quoi. D'accord? Ah ouais, ah, c'est dur. Bah oui, c'est dur, mais c'est pour vous tous. C'est pour vous, non, que je fais ça. D'accord? Donc vous allez supporter un petit peu et on va tous sortir. Mais vous inquiétez pas. Tout ce qui est mortel, que ce soit pour vous pour les ou vos animaux, je serai là pour vous protéger. D'accord? Veifleti vayom ahou. D'accord? C'est à plusieurs reprises et on voit exactement pour quelles sont les plaies où il y a eu une différence entre les Égyptiens et les Hébreux. Et lui, il va au bout de sa lecture en nous disant, et c'est d'ailleurs une. Ce qui nous permet de comprendre certaines des réactions du pharaon à certaines des plaies. C'est-à-dire que lorsque la plaie touche indifféremment les Hébreux et les Égyptiens, non, le pharaon, il ne réagit pas. Ça ne l'embête pas plus que ça.
Donc il s'endurcit.
Ouais, d'une certaine façon, dans ce sens-là, ouais. Mais lorsque la plaie ne touche que les Égyptiens et pas les Hébreux, Là, il se dit, ok, alors je ne peux pas mettre ça sur le dos du hasard ou sur le dos de la nature ou sur le dos d'un dérèglement, etc. Là, je n'ai pas le choix de constater qu'il y a une différence entre les Hébreux et les Égyptiens. Donc, il s'inquiète, il va parler au pharaon, à Moshé, pardon, désolé, j'aurais pas dû, etc. Quand il voit qu'il y a un distinguo, mais quand il voit qu'on est frappé de la même façon, le pharaon, il s'en balance, il s'en fout complètement. Parce qu'il se dit, ça va, c'est pas leur Dieu qui les protège. Donc, du coup, j'ai pas à baisser la garde, d'accord, ou à m'assujettir devant eux. D'accord. Donc, du coup, tout ça pour dire quoi? C'est exactement ce Rabbeinu Bechaye. On ne doit pas s'enfermer dans une lecture de la Torah qui est unique. La richesse de la Torah, c'est de déployer une gamme de lectures qui est extrêmement variée. Et même si ce sont des lectures qui nous surprennent la première fois qu'on les entend, on se dit « Attends, mais c'est incroyable !» D'accord, mais pourquoi mes professeurs ils m'ont jamais dit ça quand j'étais au Talmud Torah? Ben oui, mais parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose.
Tu commences par la physique.
Voilà, Khazak. Exactement, d'accord, tu peux pas sauter les étapes. Il faut bien construire ta connaissance selon ton niveau de compréhension. Mais que toute cette gamme de lectures, c'est d'une richesse qui est incroyable. D'accord, et ça nous permet à nous, alors il faut bien comprendre que chaque lecture, elle vient apporter quelque chose, forcément. D'accord, une valeur, une nouvelle réflexion, une nouvelle approche. Pour nous dire qu'en fait, l'interprétation que l'on a, ce ne sont pas des interprétations uniques. En se disant, je maîtrise le sujet, je maîtrise la vérité sur ce sujet-là. En réalité, la vérité dans l'interprétation de la Torah, elle est extrêmement large. D'accord ? Et tout ça, ça fait partie de la même Torah, du même faisceau de la Torah, de la même clé de lecture, avec des interprétations différentes, mais ce sont les mêmes clés en réalité. Et pour nous, c'est ça qui nous dit. On ne doit jamais s'enfermer dans ce sentiment un peu d'orgueil, en disant « ça va, je connais, c'est bon, c'est facile, tous ces trucs-là, on verra qu'on a des sujets plus compliqués, on essaiera de les comprendre ». Même ça, ce sont des sujets sur lesquels il y a largement de quoi découvrir et chercher, etc. D'accord ? Et voilà, ça c'est vraiment l'idée de base que je voulais déjà commencer à développer avec vous, d'accord ? Pour essayer de comprendre la richesse que l'on doit aller chercher dans les textes de la Torah et dans les commentateurs de la Torah. Je parle bien évidemment de nos commentateurs traditionnels, d'accord ? Classiques, de chez classiques, d'accord ? Mais là-dedans, déjà, il y a des tonnes. Déjà là-dedans, il y a des tonnes à découvrir. Une fois qu'on dit ça...
C'est pas embêtant, justement, de ne pas savoir la vérité.
C'est la vérité,
c'est la vérité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire,
ça se trouve,
tout, rien n'est vrai.
Ou tout est vrai. Mais c'est vrai, non, je comprends tout à fait. Des fois, c'est perturbant, d'accord, d'avoir... De quoi ?
C'est le tout qui est vrai.
Exactement. En fait, la vérité doit additionner toutes ces parcelles de vérité. D'accord, c'est extrêmement compliqué, parce qu'on dit, attends, mais soit c'est vrai, soit c'est pas vrai. Enfin, il y a forcément une vérité historique. On dit, en fait...
Est-ce qu'on peut dire que la lecture du sod, c'est la vérité ?
Oui, mais parce que le sod va intégrer toutes les facettes de la lecture, d'accord ? Toutes les strates de la lecture, de manière très, très fine. Mais c'est vrai que c'est des fois perturbant, d'accord, de se dire, attends, mais moi, je veux une lecture, d'accord ? Ne me donne pas 50 lectures différentes, je ne comprends plus rien, du coup, d'accord ? Où est la vérité ? Mais justement, c'est ça la richesse de la Torah.
Comme la Gemara.
Ouais, Khazak, des marloktot, etc., des discussions. En fait, rien n'est figé, rien n'est fermé.
Ce qui perturbe, c'est que Ibn Ezra, on l'a cité, s'il dit non, ça c'est n'importe quoi, c'est moi qui ai raison, il ne laisse pas du coup ouvert la porte à ce que ça peut superposer, se complémenter.
Ah, oui, mais alors on sait très bien comment ça marche. Mais ça, c'est du classique aussi. Quand tu as des marloquettes entre Rashi et Nachmanide, quand tu as des marloquettes entre Rashi et Tosfot, entre Rashi et Rabbeinu Tam, etc., on a l'impression qu'ils se déchirent, d'accord, qu'ils n'admettent pas du tout la lecture de l'autre. Ce qui est faux. Pourquoi ? Parce que très souvent, ils citent l'autre et ensuite, ils donnent leur interprétation.
Et c'est les Shem Shemaim.
Exactement. C'est qu'on recherche la vérité et je ne veux pas évacuer ton existence et ta présentation des choses. Souvent, je le cite moi-même. Regardez les Tosfot dans la Gemara. Tosfot classique. Tosfot qui veut s'en prendre à Rashi. D'accord ? Qu'est-ce qu'il fait toujours ? Il cite le Rashi. Il dit voilà ce que dit Rashi, mais moi, je pense différemment.
C'est la même famille aussi.
Hein. D'accord ? C'est ses élèves, c'est sa famille, etc. Quoi, donc. Mais c'est génial. Ça veut dire qu'on doit apprendre qu'en fait, personne ne détient la vérité dans la Torah.
Je suis une panime.
Exactement. On ne détient pas, on n'enferme pas une réalité, une vérité en disant « Ah non, mais moi, la vérité, c'est la mienne. » Non, en fait, le derrière du limoud, d'accord, c'est de comprendre que la vérité, elle est multiple. Elle éclate, d'accord. Elle éclate avec des tonnes de facettes, de couleurs, de goûts, etc. Tout ça, c'est le même faisceau. Hein. C'est un même faisceau, mais qui s'élargit comme ça avec plein de couleurs, d'accord, qu'on pourrait décliner dans les gammes, etc. Mais c'est génial. En fait, c'est une richesse qui est incroyable. C'est pour ça que tu peux avoir des Talmidei Chachamim qui ont 90 ans et ils vont encore t'étudier l'histoire de la sortie d'Égypte. Et ils vont te trouver un truc de dingue sur un commentaire, etc. On va te dire, attends, mais ça va, quoi, la sortie d'Égypte? Qu'est-ce que tu vas te découvrir là-dessus à ton âge et après tant et tant d'années d'études? D'accord? C'est que, bah ouais, en fait, il y a largement des tonnes, quoi.
Quand j'ai dit tout à l'heure que Tosfot va énoncer
Rachid. Ouais.
Et dire lui,
ouais.
il va pas être d'accord avec Rachid.
Ah non, il est pas d'accord, il le dit, je suis pas d'accord.
Il va juste dire, dans tel souti ou tel truc, Rachid dit, voilà
ce qu'il dit.
Mais c'est, moi je comprends pas, en genre, c'est mon pas.
Bah en fait, c'est une marque de kavod. En fait, c'est une marque de kavod. Toi, tu le vois comme étant, non, c'est juste pour le citer, pour dire je suis pas d'accord.
Je vois qu'en fin de compte, il a cité, parce qu'il ne peut pas arriver à son commentaire sur ça. Donc il dit, ok, je ne suis pas d'accord avec tel passou ou tel truc, mais je déchire, enfin, comment dire.
Ah, mais des fois, il donne vraiment l'impression qu'il se déchire sur un sujet, quoi.
La marque de Kavod, il n'y a pas de marque de Kavod.
Si, en fait, si, parce que quand tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais que tu ne l'aimes pas, le quelqu'un en question, et que tu remets en cause, tu ne le reprends pas. Tu le reprends pas parce que le reprendre et l'écrire à une époque où c'est compliqué, de machin.
Tu lui donnes aussi raison.
Hein, Khazak. Exactement. Non, je lui donne une caution. Non, sinon, je ne l'écrirai pas. Tu vois ce que je veux dire?
Mais si demain, Tosfot va dire sur un pasouk.
Non, c'est pas sur un pasouk. C'est sur un commentaire de Rachid.
Sur un commentaire. S'il ne le nomme pas, on ne va pas savoir où c'est. Est-ce que c'est?
Si, bien sûr, parce que les Tosfot dans l'Agmara, ils sont sur des parties particulières de l'Agmara. Donc, on pourrait très bien comprendre le Tosfot sans qu'il ait besoin de citer Rachid.
Ah non, mais
ils
sont venus surtout après Rachid.
Oui, ça d'accord. Mais il pourrait très bien, parce que oui, bien sûr, parce que c'est au fur et à mesure et il donne le langage qui se rapporte à la Gemara. Donc, il pourrait très bien commencer son commentaire. Point final.
Comme Rachid.
Khazak, ce que fait Rachid d'ailleurs. D'accord, Rachid, il vient et il cite. De quoi? Quoi?
Ils ont vécu en même temps les deux.
Non, c'est les élèves et descendants de Rachid. C'est les élèves et les descendants de Rachid.
Rachid était avant.
D'Arachi et ensuite d'aller Tosfot. Des Tosfot, ça s'écoule sur une très longue époque.
Sur un terme inverse, Tosfot ne va pas citer Rachid puisqu'il n'était pas là.
Tosfot ne va pas citer. Non, l'inverse. Rachid ne va pas citer Tosfot.
Oui, parce qu'il est
forcément. D'accord? Nécessairement. Mais la truc, c'est quoi? C'est que la génération qui vient après, avec une nouvelle lecture, avec une nouvelle énergie de commentaires, etc., elle va se dire, bah, ça va, je vais faire mon commentaire, je n'ai pas besoin de citer l'ancien, surtout quand je ne suis pas d'accord avec lui. Le truc, c'est quoi? C'est que Marc de Kavod, je donne quand même du crédit à ce qu'il a dit, parce que c'est pas n'importe qui l'a dit, d'accord? Et moi, j'amène une nouvelle lecture. Mais les deux, en fait, c'est ce qu'on dit. Elou va Elou, divrei Elokim Chaim. Celui-là comme celui-là, tout ça, c'est les paroles de Dieu, qui sont une Torah vivante. Donc, c'est ça, c'est la richesse de la Torah.
Et en Yeshiva, d'ailleurs, les Talmidim, ils étudient Rashi, et après, ils disent, tiens, je vais aller voir ce que Tosfot dit. Sur le même sujet.
Exactement.
En fait, ils savent très bien que l'un peut compléter.
Bien, c'est certain. C'est certain.
C'est venu dans le truc courant.
C'est certain. Donc, ceci étant dit, juste encore un dernier point sur la paracha. Du coup, maintenant, vous rappelez-vous le moment où il y a Moshe Rabbeinu qui vient de recevoir la mission d'aller libérer les enfants d'Israël. Bichon Arda. Moshe est très gêné d'aller libérer les enfants d'Israël. Non pas qu'il ne veuille pas les libérer, d'accord, mais il a des questions en tête, Moshe. Il n'arrive pas à s'en défaire. La question essentielle qu'il a en tête, c'est de dire à Kadosh Baruch Hu, il dit, Hachem, quand je vais aller me présenter devant le peuple, et je vais leur dire, c'est moi le libérateur, etc., ils vont me rire au visage. Ils vont dire, mais attends, mais dis-moi, t'étais où toi? Tu débarques comme ça du jour au lendemain en disant, c'est toi le libérateur. Mais t'étais où pendant la période de l'esclavage? T'étais où pendant que nous, on a souffert?
Au palais.
Donc, t'étais soit au palais, et quand t'étais pas au palais, t'étais à Midian, ou à Couche, selon les interprétations, mais en tout cas, t'étais pas avec nous. Tu n'étais pas avec nous. Chazak, t'as pas vécu la souffrance. Qu'est-ce que tu te ramènes comme ça? Dis-moi, c'est trop facile. Celui qui doit nous libérer, c'est quelqu'un qui était avec nous. Notamment ton frère, Aaron. Lui, il était avec nous. Lui, il a subi l'esclavage. Lui, quand on avait un problème, c'est vers lui qu'on se tournait. C'est lui qui était notre interprète, notre représentant auprès du Pharaon, etc. Donc comment tu peux maintenant, toi, Moshe Rabbeinu, arriver, d'accord, et nous dire, ouais, je prétends de vous libérer, etc. Mais ça marche pas comme ça. Du coup, Moshe, c'est lui qui dit à Kadosh Baruch Hu, il dit, mais comment? Qu'est-ce que je vais répondre, moi, à cette question-là? Qu'est-ce que je vais répondre?
Avant ça,
vas-y.
Du kavod de son frère.
Aussi. Bien sûr. C'est oui, lié, bien sûr. Ben oui. D'accord? Mais ça fait partie de ces préoccupations. Une des réponses d'Hachem, il y en a plusieurs, mais une des réponses, à un moment, il lui pose une question surprenante. Il lui dit, Moshe, qu'as-tu dans les mains? Que tiens-tu dans tes mains? Et il va répondre,
un bâton.
Nos commentateurs nous disent, et c'est un midrash que j'avais cité, je vous le cite également, il nous dit comme ça, écoutez ça.
Le bâton du berger.
Et regardez ce que dit le midrash. Écoutez ça. Zé echad mishlosha bene adam shebedakan akadosh baruchu u matza karon shel meraglaim kain bilram chizkiya. Il nous dit, regarde, il faut que tu saches que lorsque Dieu te pose une question, fais attention à la réponse que tu ramènes. Parce que si Hachem te pose une question, c'est que nécessairement, la première réponse qui va te passer par la tête, ce n'est pas celle qu'il attend. Parce que lui, en tant qu'Akadosh Baruch Hu, en fait, il sait déjà ce que tu peux lui répondre. Et il nous dit, il y en a trois dans l'histoire, dit le Midrash, mais en fait, on pourra en rajouter plus. Le Midrash dit, il y en a trois à propos desquels on dit dans la Torah, et dans le Tanakh, que Hachem leur a posé des questions en espérant un certain niveau de réponse. Mais malheureusement, il a été extrêmement déçu par la réponse qui a été proposée par les hommes en question. Et dans les mots du Midrash, c'est très dur. Le Midrash dit, il leur a posé une question en attendant un truc un peu de qualité, la réponse, une qualité. Et il a trouvé, à la place d'avoir une réponse de qualité, il a trouvé un pot plein d'urine. C'est-à-dire, nul. Une catastrophe, la réponse.
C'est ça? C'est marqué comme ça?
Oui.
Un pot plein d'urine?
Ouais. Meraglaïm. D'accord? Un pot d'urine. Donc la réponse, ça veut dire nul, quoi. Nul. Une évacuation du premier truc qui te passe par la tête. Mais dis-moi, tu réponds pas comme ça quand Hachem te pose une question. C'est le Midrash. Toi, t'as pas le droit de dire je suis pas d'accord avec le Midrash. Le Ibn Ezra, il a le droit, mais toi, non. De quoi? Oh, c'est le Midrash Rabba. Ne me demande pas qui c'est. C'est une compilation de plein de Rabbanim, de Tanaïm, etc.
Enfin,
c'est
d'accord pour dire que c'est un pot plein d'urine.
Ouais. Alors maintenant, la question, c'est pas de savoir pourquoi ils ont dit que c'était un pot plein d'urine, c'est de savoir qui sont les trois personnes en question. non, justement, c'est bien pour montrer que c'est une évacuation dégueulasse d'un premier niveau, quoi. Il n'y a rien. D'accord. Aucune qualité de réponse. Qui sont ces trois personnes? Nous, on peut en rajouter d'autres. Mais les trois qui sont cités dans le Midrash, c'est Caïn, Bilram et Chizkiya.
C'est trois différents quand même.
Très différents. Non, Chazak, c'est pour ça que je dis qu'on aurait pu mettre Adam Rishon dans l'histoire. D'accord, c'est quoi l'histoire? Il nous cite les trois facilement. Caïn, on connaît tous l'histoire. Hein. Il vient de tuer son frère. Akash Baruch Hu se tourne vers Caïn en disant, hey, il est où ton frère? Dis-moi. Quand Hachem te pose la question, il est où ton frère? Qu'est-ce que toi, tu aurais dû répondre en réalité? C'est qu'en fait, Hachem, il vient t'ouvrir une porte. Il vient t'ouvrir une porte pour que tu fasses tes chouvas. En disant, à quelques mots près, en disant à Kadosh Baruch Hu, toi qui as créé la vie, toi qui sais tout, ce qui est révélé, ce qui est caché, qui est conscient de tout ce qui se passe sur Terre, etc. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dans un élan de colère, je me suis abattu contre mon frère et je l'ai tué, je le regrette, etc. C'est ce qu'il attendait comme réponse à la question « Où est ton frère ?» Et lui, qu'est-ce qu'il se dit? Il dit, tiens, puisqu'il me pose la question, c'est qu'en fait, il ne sait pas où il est. Et donc, s'il ne sait pas où il est, moi non plus, je ne sais pas où il est. Et donc, je vais lui répondre, à Shomer Achi Anochi, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Je ne sais pas, moi, où il est. T'as qu'à aller chercher, d'accord? Donc, Hachem a posé une question comme ça pour essayer d'ouvrir une porte, de t'aider à faire tes chouvas, à faire quelque chose. Et toi, hop, tu claques la porte, d'accord, tu redonnes une réponse complètement nulle, d'accord, par rapport à l'enjeu de l'événement. Ça, c'est Caïn. Le deuxième qui est cité dans le Midrash, c'est Bilram. Bilram, c'est quoi l'histoire ? Le roi de Balak, le roi Balak, d'accord, qui est le grand roi de l'époque, de la région, d'accord. Il lui envoie des émissaires pour maudire le peuple d'Israël, ok. Akadosh Baruch Hu, il se tourne vers Bilam en disant « Qui sont ces gens qui viennent te voir ?» Et lui, il répond, avec beaucoup d'orgueil, « Ah, il y a un roi qui s'appelle Balak, qui est très riche, très fortuné, très puissant, et il m'a envoyé des émissaires pour montrer à quel point je suis un homme important. » C'est pas ça la question. D'accord, bien évidemment qu'Hachem, il sait qui sont ces gens-là. Mais moi, Hachem, il vient te piquer, t'essayer de creuser un petit peu. Qu'est-ce que tu fais là, Bilam ? D'accord, c'est quoi ton intention ? Où est-ce que tu veux aller ? Comment tu peux imaginer faire un truc sur lequel moi, je ne serais pas d'accord ?
Question, c'est un idolâtre, mais il a quand même la conscience de Dieu ?
Ah oui, complètement. Bilam ? Complètement.
Il a le même niveau que...
Complètement. Ah oui, oui, conscience parfaite. Conscience parfaite. D'accord ? Et Chizkia, c'est quoi l'histoire ? Alors là, elle est terrible. L'histoire de Chizkia, alors là, c'est plus dans la Torah, hein, c'est dans le Tanakh. D'accord, Chizkia, c'est un roi hébreu, juif, très bon, très très bon, un tzadik. Un jour, il était malade, sans rentrer dans les détails, ça a duré longtemps. Quand il s'est levé de sa maladie, le roi, écoutez bien, le roi babylonien a envoyé à Chizkia des émissaires, les bras chargé de tous les cadeaux du monde, de l'or, des matières précieuses, etc. Une fortune. Et le gars en question, le roi, il s'appelait Merodach Baladan. Il a envoyé des cadeaux, des trucs de dingue et tout. Chizkia, il était tellement flatté de recevoir tous ces cadeaux. Hachem envoie le prophète de l'époque, qui s'appelle Ishaya, et dit, dis-moi, c'est qui ces gens-là ? J'ai vu tout un cortège là, qui est arrivé devant toi. C'est qui ces gens-là ? Donc, au nom de Dieu, d'accord ? Dieu te demande qui sont ces gens. Et lui, il commence à s'enorgueillir en disant, tu te rends compte à quel point je suis respecté, moi, roi d'Israël, d'un petit royaume. Tu te rends compte que le roi de Babylonie, qui est d'une puissance incroyable, quand il a su que j'étais malade, il m'a envoyé, quand je me suis relevé de ma maladie, il m'a envoyé des émissaires avec de l'or, de l'argent, des cadeaux, etc., etc. Dis-moi, quand Hachem te pose la question, c'est pas pour que tu t'en orgueillisses, d'accord, et que tu commences à dire, t'as vu comme je suis un homme important, et que même le roi de Babel, il m'envoie des cadeaux, d'accord. Et en plus, le texte nous dit de manière très forte qu'il était tellement emballé par la visite de ces émissaires babyloniens qui les a fait rentrer dans le Beth Amikdash en leur disant, mais mes amis, venez, je vais vous montrer les richesses du peuple juif. Il les a fait rentrer à l'intérieur du Beth Amikdash, il leur a montré la menorah, il leur a montré la table de préposition, il leur a montré la table des sacrifices. Le Midrash nous dit, il leur a même montré le Aaron HaKodesh. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est ce qui est écrit. Il leur a même montré le Aaron HaKodesh, il a montré toute la richesse du peuple d'Israël.
Sur cette seconde partie, je comprends qu'il est déconné entre
les deux. Ah ouais, un petit peu. Il
sur la première,
en fait, son orgueil.
Non, mais c'est beaucoup moins grave que les deux précédents. Hein.
C'est certain. D'accord. Son orgueil qui prend comme ça le dessus à une question que pose Akash Baruch Hu pour essayer de dire, attention, fais gaffe, mon cher roi. D'accord, fais attention, ne te laisse pas embobiner par le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'est le royaume ennemi d'Israël depuis des années. D'accord, donc ne te fais pas avoir. Et toi, tu t'es pris dans ton orgueil, tu as été les accompagner dans une visite incroyable au Beth Amikdash, etc. Il nous dit, sache que c'est justement cette nation-là qui viendra dépouiller le temple de Jérusalem et qui viendra récupérer tout ce qu'il y a, toutes les richesses du Beth Amikdash. Donc il y en a trois qui ont comme ça des questions et qui ont une réponse qui ne ressemble à rien, d'accord, qui n'est pas du tout à la hauteur de la question. Du coup, pourquoi rapporter ce midrash ? Parce que quand on pose la question à Moshe Rabbeinu, Moshe, t'as quoi dans les mains ? Là, du coup, la réponse, elle doit être bien calculée, quoi, d'accord ? Si Hachem, il te pose la question, c'est qu'il n'attend pas une réponse. Il attend un truc un peu plus profond. Réponse de Moshe, un bâton. Du coup, le commentateur pose la question. Il a bien répondu ou il n'a pas bien répondu ? Est-ce que ça ressemble aussi à un pot d'urine, la réponse de Moshe Rabbeinu, ou pas ? Et nos maîtres nous disent, non, c'est une bonne réponse. Ah ouais, pourquoi c'est une bonne réponse ?
Ça veut pas dire que, ça veut peut-être pas dire que bâton.
Chazal. Hein, parce que maté, en fait, c'est pas que bâton. En fait, Moshe a compris, à ce moment-là, il a compris la réponse. Il a compris ce que représente le bâton. Deux idées sur ce point-là.
La même
première, alors, non, différemment. Ce que représente le bâton. Écoutez ça, rappelez-vous. Hachem dit à Moshe, prends ton bâton. Quand ils vont te demander un signe, etc. Prends ton bâton, jette-le. Il va se transformer en serpent. Ensuite, tu vas attraper la queue du serpent. Et hop, et ça va redevenir un bâton. Vous connaissez tous l'histoire. Ce que nous disent nos commentateurs, c'est quoi la symbolique de ce geste ? C'est que ce qui est à la tête peut devenir la queue, et ce qui est à la queue peut devenir la tête. C'est-à-dire, imaginez la scène, j'ai un bâton dans les mains, donc il y a la tête du bâton, il y a la queue du bâton. Ok ? Je jette le bâton. Je jette le bâton, il se transforme en serpent. Ok ? Et après, Hachem, il me dit, attrape la queue du serpent, donc c'est le bas du bâton, hein. Attrape la queue du serpent, et hop, et relève le serpent, et ça va devenir un bâton. Ok. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qui était à la tête est devenu la queue, et ce qui était à la queue, c'est devenu la tête. On est d'accord sur la scène ? Attends une seconde. Et Hachem, il est en train de dire à Moshe, Moshe, je vais te donner le secret de toute l'histoire juive. C'est que ceux qui sont à la tête ne sont pas définitivement à la tête. Et ceux qui sont à la queue ne sont pas définitivement à la queue. C'est moi qui décide qu'est-ce qui est à la tête aujourd'hui, qu'est-ce qui est à la queue demain. Vous êtes arrivé en Égypte, vous étiez à la tête. Vous êtes arrivé avec un tapis rouge. C'était Yosef qui était le vice-pharaon. Yaakov était considéré comme un roi. Vous étiez tous comme des rois. Tapis rouge, tous les cadeaux, tous les honneurs du pays, etc. Vous étiez à la tête. Et vous pensiez que ah, ça y est, c'est bon, quoi qu'il arrive, on est à la tête. Mais regardez, très rapidement, vous êtes passé à la queue, vous êtes devenu des esclaves, vous avez été maltraité par les Égyptiens, vous avez souffert, vous avez été mis à mort, etc., etc. Mais si maintenant j'ai décidé de vous libérer, eh bien je fais en sorte que la queue, hop, tu vas prendre le bâton dans l'autre sens maintenant. Et cette queue-là, le bas du bâton, maintenant ça devient le haut, d'accord ? Et que si j'ai décidé maintenant que vous alliez sortir de ce pays avec la main forte, etc., c'est que vous allez être la tête. Et que le pharaon qui, lui, était la tête jusqu'à présent, c'est lui qui va être en bas du bâton. Donc en fait, quand Moshe dit « j'ai un bâton dans mes mains » et que Hachem, il lui dit « regarde, jette le bâton, tu vas récupérer la queue, elle va devenir la tête, etc. » En fait, c'est ça la symbolique. C'est que dans l'histoire juive, on ne sait jamais pour combien de temps on est à la tête et pour combien de temps on est à la queue. Et que même quand on est maltraité, écrasé, piétiné par tout le monde, Akadosh Baruch Hu, il peut très bien nous dire à un moment, ça y est, maintenant, c'est vous la tête. Ce qui était à la queue, c'est ça que vous allez lever pour être à la tête. Et le bâton, comment il s'appelle en hébreu ? Il s'appelle Maté, ça c'est dans le langage de la Torah, mais nos Chachamim lui donnent un autre nom. Il appelle Mishrenet. Mishrenet en hébreu, même en hébreu moderne, Mishan, d'accord ? Mishan, c'est un...
Yeshua ?
Non, Mishan. C'est un appui.
Ça n'avait pas de Yeshua ?
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que la racine, c'est Shin Ayin Nun, alors que Yeshua, c'est avec le Yud. D'accord ? Donc, Mishan, c'est quoi ? C'est un appui, un support. Mishan Atzadikim. Akadosh Baruch Hu, il soutient les Tzadikim. D'accord ? C'est quoi un support ? C'est que justement, toi, tu as un bâton. Quand on a un bâton, tu as un support. D'accord ? Quelque chose qui te tient, qui te permet d'être droit. Vous, peuple d'Israël, des fois, vous misez de travers. Vous misez sur des choses et vous pensez que vous avez un bâton entre les mains qui vous permet de tenir bien, de tenir droit, d'être bien, d'être fort, d'être riche, d'être bien installé dans le pays, etc. Vous dites, c'est bon, on a les reins solides. D'accord, on a un bâton. Mais Hachem, il nous dit, regarde, ton bâton là que tu as dans les mains, en un instant, ça se transforme en serpent. Ça veut dire que là où toi, tu as misé pour avoir des appuis, pour avoir du concret, du solide sur lequel tu peux te construire, etc., Hachem, il nous dit, des fois, tu mises à côté. Et que ton bâton, là, que tu penses être hyper solide, en réalité, c'est un serpent. D'accord ? C'est-à-dire que là où toi, tu avais tout misé pour assurer tes arrières, en fait, c'est ça ton serpent. Et que des fois, il y a des choses sur lesquelles tu n'as pas misé. C'est parce que c'était des serpents, etc. Mais moi, Hachem, je décide qu'en réalité, c'est ça qui est ton véritable Mishan, qui est ton véritable soutien. Donc, ne te laisse pas avoir, toi, peuple d'Israël. T'es arrivé en Égypte, tu dis, bah, ça va, il ne peut rien nous arriver. On est riche, on est riche, on est reconnu, on est réputé. D'accord, on ne craint rien. Hachem nous dit, mais dis-moi, ce bâton-là, c'est un bâton creux. Parce que regarde, du jour au lendemain, c'est devenu un serpent. D'accord, du jour au lendemain, tu es devenu esclave. Tu dis, ah non, mais on était bien intégré dans le pouvoir. On était bien intégré aux yeux du pharaon, etc. Mais le pharaon, du jour au lendemain, il change de politique. D'accord, et ben vous n'êtes plus rien. Ton bâton, il est nul. D'accord, il est complètement brisé. Et d'un serpent, là où tu n'aurais rien misé là-dessus, moi, Hachem, je fais que c'est un bâton. Je fais que ta Yeshua, ta délivrance, elle vient de choses dont tu es loin de t'imaginer. D'accord, c'est moi qui décide d'où vient ta Yeshua, et pas nécessairement sur les appuis que toi t'as installés en disant, ah tiens, on va installer ça pour assurer nos arrières. D'accord, c'est moi qui décide d'où est-ce qu'elle vient, la Yeshua. Et toi, Moshe, qui te dis, attends, mais les gens, ils vont me dire, ouais, d'où tu sors, et t'étais pas avec nous, etc. Eh ben ouais, la Yeshua, elle ne vient pas nécessairement de là où on pense. Nous, on aurait tous pensé que la Yeshua doit venir du peuple, elle doit venir de quelqu'un qui a souffert avec nous, etc. Hacham, il a un autre projet. Ta Yeshua, elle vient pas de là, elle vient de l'extérieur. C'est Moshe, mais elle vient d'extérieur. Il a grandi ailleurs, il a grandi dans le palais, il a été à Midian, il a été à Akouche, d'accord, il n'a pas vécu avec vous. Ah, mais c'est pas ça un bâton? Eh ben si, c'est moi qui décide c'est quoi le bâton. Donc en fait, tu as un bâton dans tes mains pour bien montrer que ce qui est à la tête peut être à la queue et inversement, et que il faut savoir sur quoi s'appuyer, et que des fois, les choses sur lesquelles on s'appuie, c'est des serpents, et que des fois, les serpents, ce sont les bonnes choses sur lesquelles on peut s'appuyer.
Vous avez dit tout à l'heure, il fallait être à la hauteur quand on connaît l'ultra-modestie de Moshe, on connaît le fait que de toute façon ça devait passer par lui et tout. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il n'était pas à la hauteur quand il a discuté avant d'aller en Égypte?
Alors ça, c'était aussi un des cours que...
Il a tergiversé plusieurs fois.
Bien sûr, pendant 7 jours. C'est pas pour rien que Hachem s'est mis en colère contre lui. Explicitement, Vechara Af. Hachem s'est mis en colère contre Moshe Rabbeinu lorsqu'il a refusé d'aller libérer les enfants d'Israël au bout de 7 jours, en disant ça suffit maintenant, tu dois y aller, point final, arrête de tergiverser, de trouver de l'humilité, etc. Il y a des moments où il n'y a plus d'humilité qui compte. Il y a des moments où il faut y aller, parce que toi, ton humilité d'un côté, elle est en train d'entraîner des morts de l'autre côté. Parce que pendant que toi, tu refuses pendant 7 jours, il se passe quoi en Égypte? Eh bien, il y a encore des gens qui meurent. D'accord, donc à un moment, Kadosh Baruch Hu se met en colère contre Moshe. D'accord, il va se mettre d'ailleurs en colère deux fois contre Moshe. La première fois, c'est au buisson ardent. La deuxième fois, c'est au début de la paracha de la semaine. Plutôt à la fin de la paracha de la semaine dernière. D'accord, où on dit quoi? Que quand Moshe, il a été voir le pharaon et que finalement, il n'y a plus de briques, etc. Plus de paille pour faire les briques. D'accord, Moshe va dire à Hachem, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Hachem se met en colère contre Moshe en disant, Moshe, tu ne peux pas m'attribuer à moi le mal. Que tu me dises que t'es mal pour ton peuple, c'est une chose. Mais que tu me dises que j'ai fait du mal à mon peuple, ça, je te permets pas. Tu peux pas m'attribuer et coller le mal à mon nom. Ça, c'est, je te l'interdis formellement. Donc, du coup, Hachem se met en colère contre lui. Et la punition, vous la connaissez. Parce qu'à chaque fois qu'il se met en colère, il y a une punition. Au buisson ardent, il s'est mis en colère. Sa punition, c'est que...
On ne peut pas rentrer en
Eretz. Non, pas tout de suite. Non, pas au buisson.
C'est
qu'il ne sera pas Cohen. Ça, c'est la première. La deuxième, au début de la paracha, là, la fin de la paracha semaine dernière, tu m'as critiqué en disant que j'ai fait du mal à mon peuple. Hein? Maintenant, tu vas voir ce que je vais faire aux Égyptiens. Rachid nous dit, tu vas voir ce que je vais faire aux Égyptiens, mais tu ne verras pas ce que je vais faire au roi lors de la conquête de la terre d'Israël, au roi et au roi cananéen qui sont en Israël.
Ah, donc c'était...
Rachi, texto.
Donc ça veut dire que c'est la deuxième qui lui a interdit de...
Oui.
Ouais.
Et le rocher.
Le rocher, ce n'est rien qu'une confirmation de la première.
Non, c'est une cause prétexte, le rocher.
Exactement.
Tout le monde aurait été d'accord avec le rocher.
Oui, genre, bon. Bien évidemment, je vous rappelle qu'à chaque fois qu'on se permet de critiquer les grands personnages de la Torah comme Moshe Rabbeinu et autres, d'accord, c'est simplement, premièrement, parce que nos Chachamim le font, nous on n'a pas le droit de le faire, mais c'est juste pour qu'on apprenne quelque chose, parce qu'ils ont un tel niveau qui n'a rien à voir avec nous que. Mais bien évidemment. Bien évidemment. Mais oui.
Comment on peut séparer le
Gemara? Je sais pas.